Alors, bonjour à tous, dans cet enregistrement, on va voir ensemble 7 méthodes pour tonifier votre stratégie marketing B2B. En fait, c'est un article en deux parties que j'ai écrit pour le blog de Sparklane. Je m'adresse en fait particulièrement aux entreprises qui sont dans le B2B et qui ont un marketing qui date un petit peu, comme c'est le cas de, je pense, la plupart des entreprises qui sont dans le B2B. Allez, 80% des entreprises que je connaisse appliquent des vieilles méthodes qui n'ont pas évolué depuis 5 ans, avec encore des outils, une présence marketing qui est limitée, souvent une personne maximum au marketing, alors que l'univers du B2B est en train de changer, avec une concurrence mondiale, avec l'arrivée du digital, des médias sociaux, de la mobilité et plein de nouveaux outils en fait qui ouvrent de nouvelles portes au marketing B2B. Et c'est vraiment flagrant. Autant dans le B2C, les nouveaux outils, les médias sociaux ont été adoptés comme relativement rapidement, autant en B2B, il y a vraiment un vrai retard. Alors, je vous ai mis ici une petite infographie qui vous dit voilà qu'est-ce qu'on utilise en fait dans le content marketing. Là vraiment c'est on s'adresse plutôt au content marketing, mais on verra après qu'il y a d'autres informations. En fait, si vous n'avez pas encore du partage sur les médias sociaux, il est temps de vous y mettre. Je connais encore quelques marques qui me disent ah ouais mais non, on n'a pas de compte Facebook, on n'a pas de page Facebook, parce que de toute façon Facebook c'est pour les particuliers. Or vraiment c'est je dirais dans cette vidéo là c'est pas possible quoi. Il y a Facebook Ads qui est aussi performant dans un autre cadre bien sûr, mais qui est aussi performant qu'AdWords. Ne pas avoir cet outil là dans son arsenal de marketing B2B, c'est vraiment délirant en 2016. Pareil, ne pas avoir de page fan ou pas de l'animer. Alors certes c'est pas forcément ce qu'il y a de prioritaire d'animer une page fan, mais il faut au moins être présent, c'est le minimum. Donc bien entendu la newsletter, ok, l'article de blog, là encore une fois en B2B où on est souvent dans un achat qui ne se fait pas tout de suite, où on fait de la recherche, où on doit créer de la visibilité, de la notoriété, avoir un blog c'est indispensable. Et je vois beaucoup de marques qui publient à peine un article par mois quand il y a un blog, donc c'est un petit peu fou quoi. Pareil, l'optimisation SEO, souvent il n'y a rien qui a été fait, on a quelques fiches produits, quelques articles avec un site qui fait une dizaine, vingtaine de pages, or c'est pas comme ça qu'on va ressortir dans les résultats. Après bien entendu il y a toujours tout ce qui est vêtements, qu'est-ce que tu dis, vidéos, illustrations, photos et bien sûr les livres blancs. Là encore une fois dans plein d'entreprises que je visite, je les vois avec un livre blanc qui traîne depuis 5 ans, qui est pas actualisé, avec des visuels pourraves, c'est pas possible quoi. Pareil, les présentations, alors ça peut être du slideshare qu'il faut utiliser ou des webinars. Encore le webinar, c'est un peu utilisé dans certaines marques, mais dans beaucoup de marques, en fait, le webinar, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a pas de web séminaire en ligne. Et on envoie une newsletter au client avec un petit truc à regarder de temps en temps, alors que créer l'événement, créer une vidéo en ligne et inviter les gens, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc là, c'est en content marketing. Déjà, vous pouvez regarder un petit peu où vous en êtes là-dedans. Est-ce que vous utilisez ou pas? Mais après, je vous ai mis une petite infographie. Bon, elle date un petit peu, elle date, je crois, de 2014 ou 2013. Mais en fait, elle vous explique quels sont les outils les plus efficaces en marketing B2B. Bien entendu, le vendeur, le télévendeur qui fait là de la détection de projet, de la qualif, ça devient important, comme le télémarketing aussi, pareil. Les événements physiques où on fait venir les boss, ça c'est important aussi. Trade show, conférence, je suis encore un peu dubitatif sur le fait qu'en 2016, ça soit aussi performant que ça, parce qu'on voit bien que les salons plutôt, malheureusement quand c'est mal préparé, quand c'est souvent le cas, on est souvent à des événements où il y a surtout des concurrents qui se regardent en chien de faïence. Si on fait un salon, il faut y venir avec de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il faut inviter ses prospects, il faut louer la base de l'organisateur, il faut participer un maximum à des conférences, il faut mettre en place des outils pour attirer de la visibilité avec la distribution de flyers, du jeu concours. Bref, on vient pas juste comme ça poser son stand en essayant de choper les gens dans les allées. Il faut agir de manière un petit peu intelligente là-dessus, quoi. Voilà, donc ici je vous ai mis un petit peu ce qui marchait le mieux, donc bien sûr webinar, etc., etc., et ce qui marchait le moins, sans surprise, Pinterest. Pourquoi Pinterest? Parce qu'en fait ça reste très peu de volume, les gens recherchent assez peu sur Pinterest et ça paraît très peu quand même dans les résultats de Google, donc forcément c'est pas ça qui va être utilisé le plus. Après Twitter, on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui sont dans d'autres secteurs que dans le high tech, et à ce moment là Twitter est assez peu utilisé, sauf encore une fois fois pour aller chercher des influenceurs. Google+, bien entendu, j'en parle pas, c'est surtout pour le référencement qu'on utilise. Bref, donc là c'est juste pour vous montrer qu'il y a des outils qui existent. Si vous ne les avez toujours pas dans votre arsenal, bah, c'est le moment de vous y mettre. Alors, bien entendu, vous avez vu cette petite liste à la Prévert, il y en a un bon paquet d'outils qu'on peut utiliser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais essayer de vous donner des outils intéressants, des outils intelligents, et j'en ai préparé en fait cette méthode. En fait, le premier, c'est d'utiliser le marketing comportemental. C'est de plus en plus important. En fait, c'est pour éviter ce que moi j'appelle le leaking bucket, c'est-à-dire tout simplement le seau d'eau qui fuit. C'est-à-dire qu'on va générer des leads, mais tout simplement, bah, les leads, on va pas les gérer efficacement parce que tout simplement, on va pas les appeler immédiatement, on va pas faire de qualification, on va les laisser partir sans proposer un livre blanc, sans ceci, sans cela. Donc, des gens qui viennent sur votre site web, généralement, vous avez 98% des gens qui viennent sur votre site web qui font rien du tout. Donc en fait, il faut éviter ça et donc aller récupérer leurs coordonnées. Il ne faut pas juste les laisser partir sans rien faire. Alors, le premier outil, c'est bien sûr l'IP tracking. Si vous ne le mettez pas en avant, bah, je vous conseille de le faire. C'est une technique qui est encore un petit peu chère, c'est vrai, mais vous pouvez quand même trouver des solutions relativement bon marché. Je vous ai mis GetPlus, Lead Forensic, mais il y en a plein d'autres comme ça, hein, qui permettent en fait de faire de l'identification de l'adresse IP du visiteur. C'est-à-dire que ben, une entreprise visite votre site internet grâce à un petit script qui est sur les pages de votre site web et une sélection de pages sur votre site web, ben, vous pourrez avoir le nom de l'entreprise qui visite. Ensuite, bien entendu, grâce à une liste de personnes, soit avec LinkedIn, soit avec Viadeo, soit avec une base de données, ben, vous allez pouvoir faire la correspondance entre cette IP, par exemple la société Tartampion qui visite, et vous allez sur LinkedIn, ou alors on vous fournit le nom de la personne qui est responsable marketing, achat, commercial de cette entreprise là. Après, vous n'avez plus qu'à en fait à appeler, et c'est ça en fait souvent qui est le plus difficile, c'est appeler dans le dur et dire bon bonjour, vous êtes la société Tartampion, j'aurais parlé à monsieur Bidule et lui dire bah, monsieur Bidule, j'ai eu des informations comme quoi vous avez visité notre site internet, j'aurais aimé savoir si vous étiez intéressé, si vous aviez un projet, etc. etc. Ça souvent c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire. Il faut véritablement tomber sur un commercial qui est un vrai chasseur, qui aime bien jouer comme ça à sélectionner les personnes, à les identifier, etc. etc. Donc là, c'est vraiment un mode de travail qui est parfois compliqué dans le B2B et surtout dans les produits à valeur ajoutée, tout simplement parce que les commerciaux préfèrent avoir un lead chaud que d'aller travailler sur un lead froid comme cela. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier les gens qu'on n'a pas vus et qui sont allés voir le site internet mais qui sont peut-être allés chez les CD concurrents et pour les rattraper au vol. C'est également intéressant lorsqu'on, par exemple, on va vendre à l'export. Ça, c'est vraiment bien puisqu'en fait, on peut identifier dans les pays les personnes qui visitent l'entreprise et ça, c'est enfin, le site de l'entreprise en tout cas. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, comme ça, on peut savoir exactement qui vient. Et quand on est dans un pays à l'export et qu'on n'a pas beaucoup de prospects, bah ça permet d'augmenter rapidement le nombre de prospects pour en fait nourrir ses commerciaux. Voilà. Bon, bien entendu, en amont de cela, quand on est à l'export, il faut au minimum avoir travaillé sur le référencement, la génération de leads, AdWords, etc. pour véritablement avoir un peu de trafic, parce que s'il y a zéro trafic, ça ne servira à rien, bien sûr. Alors, la partie comportementale de l'IP tracking, en fait, c'est simplement de se dire que toutes les pages ne se valent pas. Par exemple, la page tarif, la page contact vaut des points. Par contre, la page SAV, etc., ne valent pas beaucoup de points. Donc, en fait, c'est, comme je le disais, le travail de chasse qui va être le plus compliqué. Alors, le second outil de suivi comportemental, hein, parce que c'était la première partie, hein, c'était ici utiliser le marketing comportemental dans votre arsenal marketing, c'est tout simplement en fait d'aller rechercher le marketing automation comme outil pour tout simplement segmenter selon les ouvreurs, les cliqueurs, le type de clic, les clics effectués, etc. etc. Alors, une première génération d'outils, moi comme j'utilisais par exemple comme Aweber par exemple, mais maintenant vous avez quand même des solutions un peu plus évoluées, je citerai Mailchimp par exemple, GetResponse, qui sont pas capables en fait de créer des sous-segmentations à partir de personnes qui ont cliqué sur un bouton ou fait un certain nombre d'actions. Et là c'est vraiment intéressant et ça permet vraiment de savoir quel produit proposer. Par exemple, les solutions modernes sont capables de vous dire, bah, tiens, vous avez envoyé par exemple un email sur le produit A, et puis en fait finalement le client il est allé sur le site internet, il est resté 2 minutes sur le produit A, mais après il est resté 10 minutes sur le produit B. Et là en fait vous saurez que c'est pas le produit A qui intéresse la personne, mais bien le produit B quand vous devrez l'appeler ou pour lui proposer une promotion, etc. etc. Donc savoir exactement ce que veut le client et non pas se dire, bah, tiens, j'ai envoyé un email et puis je relance tout le monde. Alors, l'autre avantage en fait, et l'autre méthode que je vous propose de mettre en avant, c'est d'adopter le profiling pour tout simplement avoir des leads de meilleure qualité. Parce que souvent en B2B, le danger, c'est de multiplier entre guillemets le nombre de leads et d'envoyer du leads bah, for pas forcément hyper qualifié à ces commerciaux. Et bah, les commerciaux, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être débordés, ils vont vous dire ouais, mais vos leads, c'est pas de la bonne qualité. Et ils vont rechigner à les traiter dans le temps. Ça va pas être géré de manière optimale. Ça arrive très souvent. Donc, souvent en fait, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est d'aller rechercher des jumeaux de vos meilleurs clients. Par exemple, vous pouvez savoir que ben, mon meilleur client, c'est par exemple une entreprise qui est plutôt dans le domaine de l'industrie, qui est plutôt qui vend à l'export, etc., etc. Et donc après, vous allez rechercher dans des bases comme par exemple Sparklane, hein, ici, vous allez chercher en fait tout simplement des gens qui sont similaires à cela. Donc dans le B2B, c'est dans le B2C plutôt, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de fichier. On n'a pas de fichier des gens qui possèdent une tondeuse, des fichiers qui gagne plus de X euros, enfin, ou alors c'est compliqué à obtenir, tandis qu'en B2B, en fait, c'est relativement simple d'obtenir ce genre de fichiers ciblés, parce que d'une part, vous avez bah, les entreprises dont c'est le métier, et ils sont là pour tout simplement enrichir en fait des bases de données d'entreprises et de décideurs. Et en plus, bah, vous avez LinkedIn qui est l'annuaire indispensable, et vous avez Sparklane aussi qui est un outil de gestion de base de données. Donc en fait, il est très simple pour vous de vous dire, bah, tiens, je sais que mon client type, le meilleur client, il ressemble à ça, et tout simplement après, je vais proposer bah, je vais essayer de chercher des gens qui ressemblent à ce profil-là. Et ça, tout simplement, bah, il faut voir la méthode des personas. Il faut bien sûr utiliser des données quantitatives, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez dans votre base de données, mais également qualitative en discutant avec les commerciaux pour savoir qui sont les meilleurs clients, en quoi bah, quels sont les clients qui sont les plus intéressants. Alors moi je distingue à chaque fois plutôt plusieurs types de clients. Vous avez ce qu'on appelle le sweet spot. Le sweet spot, on pourrait le traduire en français, c'est on va dire le pot de miel, c'est-à-dire tout simplement les clients pour lesquels votre offre est la plus adaptée et sur laquelle en fait vous faites le plus de marge. Par exemple, et après, ben, pour donner le sweet spot, c'est vraiment le cœur du cœur de cible. C'est vraiment là où vous faites le plus de bénéfices et votre offre est plus pertinente. Et ensuite, la cible élargie, c'est ce qu'on appelle le cœur de cible. C'est-à-dire que les gens qui sont potentiellement intéressés par votre produit, un peu moins pertinent, mais toujours intéressant. Par exemple, imaginons que bah, vous soyez toujours dans les machines-outils. On va dire que vous vendez des machines-outils agricoles. Donc, votre cœur de cible, ben, c'est tout simplement les gens qui ont. Je sais pas, qui sont céréaliers et qui ont je sais pas, 50 hectares ou 500 hectares de terre. Et votre sweet spot, en fait, c'est les céréaliers qui font de 400 à 500 hectares parce qu'ils ont un certain pouvoir d'achat, etc., etc. Donc vous avez le sweet spot, où là où votre offre est la plus pertinente, la plus intéressante, et vous avez votre cœur de cible qui est votre cible en elle-même. Donc ça c'est important de le savoir. Puis après vous avez ce qui est important de mettre aussi, c'est les non-consommateurs, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas dans votre cible. Et ça c'est important de dire noir sur blanc parce que parfois en fait on n'a pas cette information-là dans l'entreprise. Et après quand on achète des leads, quand on fait des personas, quand on fait des campagnes, si on essaie de vendre à tout le monde, alors que quand on essaie de faire ça, on essaie de vendre à tout le monde, en fait on vend à personne. Donc il faut véritablement savoir qui est mon client et garder ses efforts et pas se disperser sur des clients qui n'ont pas bah, ce potentiel-là ou ne pas adapter ses outils marketing sur ces personnes-là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait sa cible prioritaire, les cibles secondaires, alors généralement vous avez le sweet spot, vous avez après le cœur de cible, le cœur de cible élargi, ben, il ne reste plus qu'à aller chercher des bases de données, comme je le disais, Sparkline for Sales, hein, c'est une des solutions qui existe sur le marché et qui permet en fait d'identifier là parmi 10 millions de sociétés avec des activités, des secteurs de croissance, etc. etc. Voilà, donc c'était pour vous indiquer ça. Donc en fait les commerciaux, ben, comme ça, ils peuvent aussi travailler. Alors bien entendu, vous pouvez acheter une base comme je vous le disais, mais ce qui est intéressant, c'est de travailler la technique du warm call. Le warm call, c'est-à-dire appeler une personne sur ben, une information qui est pertinente pour eux. Par exemple, ça peut être une nomination, ça peut être une levée de fonds, ou par exemple dire, bah tiens, vous faites partie d'une filiale. Ça, en fait, en B2B, c'est vraiment intéressant de ne pas appeler comme ça. Bonjour, je vous appelle pour savoir s'il n'y a pas un besoin de bidule, c'est-à-dire bonjour, j'ai vu que vous aviez nommé une personne directrice de l'expérience client, j'aimerais vous offrir un livre blanc ou un audit ou un consulting, etc. etc. Donc ne pas venir comme ça à vendre sa solution, mais venir contextualiser l'appel avec une offre de solution ou une offre gratuite ou quelque chose comme ça en fait, qui vient tout de suite changer la phase de la relation et on n'est plus comme un vendeur qui met le pied dans la porte, mais on est véritablement comme un apporteur de conseils. Voilà. Bien sûr, un autre élément, c'est le social selling, hein, c'est-à-dire exploiter le carnet d'adresses que l'on voit sur LinkedIn, Viadeo, Crossing, Twitter, Facebook. Mais je dis toujours, hein, le social selling n'est pas fait pour vendre. On n'est pas là pour pousser de l'information parce que, un, ben, ça marchera pas, ils ne sont pas là pour ça. Sur Facebook, ils sont pas là pour commander. Par contre, vous pouvez leur poster de l'information, les éduquer, leur donner envie, etc. etc. Mais on n'est pas là pour faire une promo. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est plutôt développer son réseau, gagner en visibilité et proposer des solutions. Alors, il y a un article, hein, qui existe justement avec les bonnes pratiques avec Yann Gourvennec. Hein. Vous pourrez le voir directement sur le blog de Sparklane. Alors, la méthode numéro 3 sur 7, c'est penser multicanaux de vente et de communication. Souvent, en fait, dans le B2B, moi je le vois, c'est de la vente à l'ancienne, en fait, tout simplement. Ben, on a des ingénieurs commerciaux qui sont là pour proposer des solutions, il y a de la vente ajoutée, avec du rendez-vous, etc. Alors, ça, ça reste vrai. Ça reste vrai. Moi, je sais que quand on est dans la vente B2B, il est vraiment essentiel d'aller rencontrer les gens. Et entre deux commerciaux, un qui fait l'effort, et l'autre qui va tout simplement bah, envoyer un lien et programmer une web démo, bah, ça fait véritablement la différence. Donc le but, c'est pas de dire dans la vente physique ne sert à rien, c'est tout simplement en fait qu'on va essayer d'aller concentrer ses efforts. Parce qu'en fait, si vous mettez en place des techniques modernes de génération de leads, bah, vous allez très rapidement multiplier par 5, 10 le nombre de vos prospects. Tout simplement parce que si vous mettez en téléchargement des livres blancs sur votre site internet, si vous mettez des pop-up ou des chats de demande d'information, si vous optimisez vos AdWords, si vous mettez du Facebook Ads, si vous participez à des salons, si vous organisez des web séminaires, bah, tout simplement en fait vous allez obtenir un volume de leads qui est multiplié par allez, 10, parfois 20. Le problème, c'est que vous allez avoir des clients hors cible. Moi, je l'ai bien vu, hein, dès qu'on commence à mettre un petit peu de contenu à valeur ajoutée, qu'on gagne de visibilité sur Internet, ben, on dépasse en fait ses propres frontières. Moi, je l'ai vu une fois avec un éditeur de CRM pour lequel j'ai travaillé. Ben, tout de suite, en fait, on avait mis en place une belle optimisation de référencement naturel, du contenu, du chat, etc. Donc, on arrivait à capturer vraiment beaucoup, beaucoup de gens sur le site web. Le problème, c'est qu'en fait, on avait beaucoup de gens hors cible. La solution était uniquement vendue dans quelques pays francophones et anglophones, et on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient bah, en Afrique, qui étaient en Asie, qui étaient aux États-Unis. Or, en fait, comme la solution était à valeur ajoutée, que c'était compliqué à la déployer à l'export, eh ben, on se retrouvait avec beaucoup de prospects qui étaient hors cible. Et donc, encore une fois, il faut faire évoluer son organisation commerciale avec de la télévente. Le but, en fait, c'est d'aller qualifier les leads chauds par bah, les leads tout simplement au froid ou les leads tout court par de la télévente et ensuite transmettre que les leads chauds, mettre des opérations commerciales pour faire de l'upsell avec par exemple ben, de la vente par téléphone ou de la vente par email et ensuite tout simplement ben, réserver la vente physique hein, ou le rendez-vous physique au projet à valeur ajoutée. Voilà, une organisation commerciale standard, généralement on a un directeur commercial et puis une petite, allez, 3, 4, 5 ingénieurs commerciaux. Une organisation commerciale évoluée, elle se fera de manière un peu différente. On a un directeur commercial. toujours les ingénieurs commerciaux, mais on aura en fait de la télévente qui fera de la qualif, ou qui fera de la téléprospection, qui fera de la vente de petits produits à faible valeur ajoutée, ou la vente de petits services, etc. Et on aura généralement un avant-vente qui sera dédié à 100% là-dessus, parce qu'en fait, l'avant-vente, quelque part, si c'est fait par les ingénieurs commerciaux, en fait, ça sera pas la même valeur et la même qualité, puisque tout simplement, quand on a quelqu'un qui est dédié, il pourra passer du temps à faire une belle maquette, il pourra passer du temps à préparer des choses, etc. Et donc ça va être tout de suite beaucoup, beaucoup plus pertinent. Voilà. Alors, généralement, oui, ce que je disais, l'avant-vente est vraiment sympa parce que le rôle d'avant-vente permet d'avoir une personne qui est à la fois technico-commerciale et qui permet en fait d'aller tout de suite être beaucoup plus pertinent. Et c'est surtout vrai quand on a une marque qui n'est pas forcément hyper connue par rapport à des marques leaders, puisque vous aurez du mal quand vous êtes une marque challenger à justifier le fait de vous choisir parce que c'est un risque par rapport à une marque leader pour un produit qui sera quasi similaire. En revanche, si vous venez avec un avant-vente qui vous fait une super maquette et qui est totalement adapté à l'univers du client, que vous avez intégré les données du client, etc., 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 et ses problématiques, bah là tout de suite les mecs vont se dire waouh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et donc vous allez en fait pouvoir comme ça vaincre cette barrière de je suis une petite marque, etc. Voilà. Alors, il est également nécessaire de penser multicanaux. Ça s'applique aux outils marketing. Le contenu doit être exploité et repensé sur plusieurs canaux. Par exemple, un article de blog peut être exploité sous forme de livre blanc, avec des compilations par exemple. Une vidéo sera publiée sur YouTube comme celle que je fais ici maintenant. Une infographie sur Pinterest. Un podcast, pourquoi pas sur iTunes. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur iTunes. Hein. J'ai mon podcast qui est suivi par plusieurs centaines de personnes. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir cet aspect multicanaux et être présent sur un maximum de carrefours d'audience. Par exemple, en fait, comme je le dis toujours, un article de blog qui est vraiment super, comme celui que j'ai créé pour Sparkland, en fait, il faut après le réexploiter. Il faut passer plus de temps à faire du super contenu et ensuite le réexploiter que de passer du temps à faire du contenu, du contenu, du contenu, du contenu. Voilà. La conséquence directe, c'est que le marketing doit produire donc moins de contenu, des contenus à plus forte valeur ajoutée, avec une promotion et un multicanaux qui doit être pensé et mis systématiquement. Moi, par exemple, à chaque fois que j'écris un contenu comme ça, top, ce que je fais, c'est que j'ai une technique de promo et j'ai une checklist de promo. Et avec cette buzz checklist, hein, tout simplement, je sais ce que je dois faire à chaque fois et c'est structuré et c'est bien organisé. Ça me permet de rationaliser mon temps et d'être en efficacité maximale.